A long way from home.
En sol majeur.
En sol majeur.
Yasmine Joaquin.
Beyrouth, c'est pas que la guerre, c'est pas que les tensions interethniques ou la question des réfugiés syriens. D'ailleurs, notre invité Alexandre Najjar aime à citer cette phrase de Khalil Gibran. Si le Liban n'était pas mon pays, je l'aurais choisi pour pays. Vous me direz que les poètes ont l'art de tout sublimer, éclat d'obus comme éclat de voix. Mais bref, bonjour Alexandre Najjar.
Bonjour.
À voir le CV du monsieur, il y a dans l'air de l'amour inconditionnel pour le pays du cèdre et de l'arak. Auteur d'une trentaine de livres, traduit dans une douzaine de langues, avocat à la cour aux multiples occupations, membre fondateur du Centre Maronite de Recherche, ancien consultant auprès du ministère libanais de la Culture, ancien chroniqueur littéraire, par ailleurs très investi sur la question de la francophonie. Il est aujourd'hui dans le fauteuil d'en sol majeur, escorté par pas mal de livres. Sa rentrée littéraire se fait avec Harry et France, mais il est également escorté par son dictionnaire amoureux du Liban et son nouveau récit intitulé Mimosa. Donc vous voyez qu'Alexandre le Petit a quelque chose du cèdre à lui tout seul. Et oui, car il y a Alexandre le Petit et puis il y a l'autre, le Grand, car vous avez l'audace de vous appeler Alexandre.
Oui.
Vous fermez les yeux, vous, quand vous écoutez la radio.
En fait, je me souviens qu'une fois, un poète libanais m'avait dit « Mais comment on t'a appelé Alexandre ? C'est l'ennemi de Tyr. » Parce qu'Alexandre le Grand avait conquis Tyr après un long siège. Et pour lui, c'était impensable de s'appeler Alexandre. Mais je lui avais répondu que c'était un très beau prénom, à mon avis, qui a un sens aussi. Ça veut dire celui que la difficulté n'arrête pas. Donc je pense que ce prénom me motive.
Que vous rappellent les danses hongroises de Brahms ?
C'est une musique que ma mère nous mettait souvent, parce qu'on est une famille de 6 enfants, donc souvent pour nous distraire, elle nous mettait les danses hongroises de Brahms, et puis aussi le kazatchok. Et nous, tous les 6, on tournait autour de la table de la salle à manger en riant. Donc souvent quand j'entends Brahms, je me souviens de ma mère et de cette tradition qu'elle avait de nous mettre cette musique.
J comme jardin secret.
Car dans ce jardin secret, Alexandre Najjar, il y a un mimosa, ou plutôt une mimosa.
Oui, en fait, ma mère avait pour surnom Mimosa, parce qu'elle était passionnée de plantes. Je pense que la nature, les fleurs, les plantes, étaient un peu son sorte d'échappatoire qui lui a permis de survivre, de surmonter les épreuves de la guerre. C'est pas facile quand on a 35 ans d'avoir 6 enfants à charge, alors qu'elle était encore un peu inexpérimentée, parce qu'elle avait fait des études de droit, qu'elle ambitionnait de devenir juge. Et puis, tout à coup, la guerre est venue, et puis elle devait s'occuper de toute cette famille, donc c'était pas évident pour elle.
Dans ce récit intimiste, donc intitulé Mimosa, et dont on va entendre quelques extraits, vous posez les bases d'un Liban d'autrefois. C'est le Liban de jadis, je trouve que ce mot va bien à votre récit.
Oui.
Donc c'est le Liban sous mandat français, puisque votre mère naît en 1940 à la maternité française de Beyrouth. Ce qui veut dire qu'elle naît dans une famille béroutine aisée et lettrée.
Oui, en fait, son père était médecin. Il avait été appelé une fois au chevet du haut commissaire de Jouvenel, qui était un des maris de l'écrivain Colette.
Le dernier mari de Colette,
oui,
c'est ça ?
Oui, c'est ça.
Bah, dites donc.
Et donc, mon grand-père avait vu que le médecin français était en voyage, donc on l'avait convoqué pour s'occuper de lui. Donc, c'était quelqu'un d'extrêmement intelligent, mais aussi très dur avec ses filles. C'était quelqu'un de très exigeant. Et puis, il faut voir que l'époque, qu'une jeune fille travaille, ce n'était pas très bien vu de toute la société, pas de lui-même. Donc ma mère voulait travailler, et donc très tôt, elle s'est un peu heurtée à lui, parce qu'elle voulait à tout prix travailler. Elle a même présenté un concours dans l'administration libanaise, où elle a été reçue brillamment, mais il a refusé. Il lui a dit, moi je n'ai pas de fille qui devienne fonctionnaire. Les fonctionnaires doivent subir les vexations et les plaintes des gens. Donc
lettré n'est pas forcément synonyme de moderne.
Non, tout à fait, tout à fait. Donc, mais à la fin, elle a eu gain de cause puisqu'elle lui a presque de force obligé à accepter qu'elle enseigne le français et les sciences dans une école pour filles. Il n'avait pas accepté que ce soit une école mixte. Il y en avait peu d'ailleurs à l'époque. Et donc, elle a quand même réussi à s'imposer et à travailler à une époque où ce n'était pas évident. Docile, tu ne le fus pas toujours, je crois. Comme tous les jeunes des années 60, tu eus ta période de rébellion. Tu lisais Jean-Paul Sartre et Simone de Beauvoir, jugés subversifs par la société bien-pensante de Beyrouth. Tu écoutais les chansons grivoises de Brassens et les textes engagés de Léo Ferré ou de Jean Ferrat, quand d'autres ne juraient que par Tino Rossi et Edith Piaf. Sans être marxiste, comme la plupart des intellectuels libanais de l'époque, tu te positionnais du côté de la liberté et revendiquais les droits de la femme, trop souvent bafoués dans le monde arabe. Les idées et les livres en provenance de France t'aidaient à te forger des opinions hardies, loin du conformisme ambiant.
Alors, je ne sais pas si après ce court extrait de Mimosa pour un sol majeur sur RFI, votre mère, Alexandre Najjar, réussit son émancipation dans ce Liban des années 60. Il faut vous lire. En tout cas, vous, vous avez 8 ans lorsque la guerre éclate, 23 lorsque le canon se tait, comme vous dites. Et pourtant, vous décrivez dans ce récit intime, je l'ai dit, vous décrivez majoritairement des micro-événements de cette enfance béroutine. Il y a peu de guerres, même au moment de la guerre, peu d'explosions. Et même quand elle surgit, cette guerre en 75, vous décrivez, vous, plutôt le bonheur, par exemple, de l'école à la maison grâce à votre mère, la photo instantanée de moments à la plage ou dans la neige. Est-ce que c'est l'enfance qui déforme la réalité, vous croyez ?
Oui, je crois que... Bon, évidemment, les enfants sont les premières victimes de la guerre parce qu'ils sont privés d'école, souvent. Ils sont victimes des bombardements, des privations. Et puis, on ne leur demande pas leur avis. Ils n'ont pas voix au chapitre. C'est pour cela que j'ai écrit l'école de la guerre, pour redonner à ma génération le droit à la parole qu'on lui a confisqué. Donc c'est vrai que les enfants sont évidemment les premières victimes de la guerre, mais en même temps, ils se créent un monde à eux. Ils essaient de se créer une bulle et leurs parents souvent les aident aussi à construire cette bulle-là. Et étant donc membre d'une famille de 6 enfants, nous avions vraiment construit un monde parallèle par rapport à la guerre pour continuer à survivre et pour ne pas déprimer. Je veux dire, simplement, c'est vrai que je raconte dans mon livre les moments que nous volions à la guerre contre la volonté de violence des autres. À cela, nous opposions notre volonté de vivre, mais souvent la guerre nous rattrapait et donc on retombait malgré nous dans la violence, enfin dans cette violence ambiante. Je revois les abris où nous nous terrions comme des rats, les slaloms entre mines et barrages pour arriver à l'école ou à la maison, les files d'attente quand le pain, l'essence et l'eau étaient rationnés. J'entends encore les déflagrations qui nous empêchaient de dormir. Les nouvelles alarmantes que la radio diffusait sans cesse, précédées d'un jingle irritant. Et je me dis que oui, la guerre nous a confisqué une bonne partie de notre existence. Comment, à 35 ans, as-tu pu surmonter cette épreuve et protéger 6 enfants de la violence ambiante ?
Alors on l'entend et on le lit hein, dans votre Mimosa, merci pour cet extension de majeur, Alexandre Najjar. Votre mère a eu le talent d'être mère en temps de guerre et de veiller sur son foyer et sa nichée. Et d'ailleurs, cette manière qu'elle a eu de veiller sur ses 6 enfants vous a sauvé la vie, plus d'une fois.
Oui, c'est vrai, il y avait une sorte d'instinct chez elle. Je raconte dans un chapitre comment elle avait une sorte d'intuition qui nous disait, par exemple, nous devons aller maintenant nous cacher dans les abris, alors que rien ne justifiait cela. Par exemple, une fois où une voiture piégée avait explosé, quelques secondes avant, sans aucune raison. Elle nous a dit « Venez prendre le thé ». Alors qu'elle ne nous a jamais invités à prendre le thé avec elle, et nous détestions le thé à l'époque. Et donc, nous étions levés de nos lits de mauvaise grâce. Et puis, tout à coup, cette voiture piégée horrible, enfin d'une grande violence, détruit tout. Et toutes les vitres de la pièce où nous étions volent en éclats et tombent sur les lits où nous étions et déchirent carrément les draps. Donc nous aurions été déchiquetés si elle n'avait pas eu cette intuition qui n'avait aucune raison d'être, où elle nous avait dit « Sortez de votre chambre et venez chez moi ».
Est-ce que Mimosa se veut le portrait de la mère arabe ou de la mère libanaise ?
Il y a beaucoup de genres de mères arabes, parce que je pense qu'une mère arabe au Yémen n'est pas comme une mère arabe en Égypte ou une mère arabe au Liban. Mais ce qui est certain, c'est que j'aimerais peut-être élargir par rapport au monde arabe. Je pense que la mère méditerranéenne est une mère qui est pas forcément possessive, mais très attentionnée, qui donne du temps. Parce que malheureusement,
ça va au-delà. Il y a un amour absolument inconditionnel qui est lié sans doute à la présence de la tradition, de la religion, et puis à ces zones de guerre où malheureusement...
Oui, tout à fait. Mais je crois que c'est propre surtout à la Méditerranée. Il y a cette tradition qui va de l'Algérie à la France, à l'Italie, à la Grèce, à l'Espagne. Enfin, tous les pays du pourtour méditerranéen ont cette présence importante de la mer.
En tout cas, cette mer vous a préservé des événements et vous a offert une enfance chaleureuse, malgré la guerre. Et elle vous a encouragé, Alexandre Najjar, très tôt, elle a encouragé votre talent d'écriture. Et je vois d'ailleurs que dans ce récit, vous vous adressez directement à elle en lui disant « tu ». Pourquoi est-ce que vous écrivez à votre mère ?
C'est vrai que c'est le premier livre où je l'écris à la deuxième personne. J'ai voulu lui faire part de confidences. Enfin, c'est comme un dialogue qui continue malgré sa maladie et sa mort, pour pouvoir vraiment garder cette complicité entre nous qui a toujours existé.
Et peut-être qu'il y a chez vous, sous votre plume, la peur d'un passé, que ce passé maternel et ce passé autour de votre enfance disparaissent.
Oui, je crois que c'est peut-être aussi en écrivant qu'on fige les souvenirs, on les préserve de l'oubli.
C'est comme une boîte à souvenirs que
voilà,
vous avez créée.
Voilà, exactement.
Alors je ne sais pas si le temps de Fayrouz est passé. En tout cas, nous reste ces vinyles sur RFI et on va entendre, grâce à votre choix à vous Alexandre Najjar, un son de flûte, grâce en fait à un poème de Khalil Gibran, c'est le plus libanais peut-être des poètes. Donc poème mis en musique et chanté par Fayrouz. Que dit ce poème que vous avez choisi ?
C'est en fait un poème assez spirituel où on dit « donne-moi le naï » qui est une sorte de flûte de roseau. Et donc cette flûte, chez les soufis, est un instrument très lié à la spiritualité. Et donc c'est un hymne à la nature à travers cet instrument. Je crois que c'est peut-être le poème le plus écologique de la...
On ne va pas développer, hein,
non,
mais je retiens
le mot
quand même.
C'est le poème le plus écologique de la poésie arabe, je crois.
هل تحممت
Le chant est le secret de l'immortalité, c'est ce que nous dit Khalil Gibran dans la bouche de Fairouz. Et tout ça mijote en sol majeur sur RFI dans la petite marmite d'un Alexandre qui a tout à coup 5 ans et demi dans le fauteuil d'un sol majeur. Alexandre Najjar, romancier libanais d'expression flaubertine.
Trong cái ngôn ngữ nào bạn dùng để nói bằng chữ cái?
Dans quelle langue dites-vous votre alphabet?
Je dis mon alphabet en français, étonnamment. Parce qu'en fait, je suis tombé un peu dans la langue française comme Obélix, dans la potion magique. Et c'est vrai que dès ma plus jeune enfance, j'étais bercé par cette langue. Et c'est ma langue d'écriture. Maintenant, évidemment, la langue arabe est une langue que je pratique en tant qu'avocat au quotidien. Je parle l'arabe couramment. Mais d'un point de vue artistique, c'est la langue française qui m'attire. Et je dis toujours que c'est une femme très belle.
La langue française.
Oui, mais en même temps un peu capricieuse. Mais c'est ce qui fait aussi son charme. C'est parce que justement cette difficulté qu'elle a la rend encore plus intéressante. Et donc c'est une femme avec qui je vis depuis 50 ans maintenant. Et donc j'aime cette
langue. C'est un vieux couple
j'aime
alors,
cette
hein.
langue. Oui, on est un vieux couple.
Ouais.
Mais en même temps, la langue arabe est une langue que je respecte beaucoup, que j'aime beaucoup. J'ai même écrit un livre sur Gibran en arabe. Mais la langue d'écriture que j'ai choisie, c'est le français.
Et alors pourquoi finalement? Je rappelle quand même que là, vous choisissez cette langue dans un pays, le Liban. Arabophone à 60% et francophone à 25%.
Maintenant, les statistiques, je m'en méfie un peu parce qu'en fait, on ne sait pas trop, par exemple, ce qu'on considère comme locuteur de français. Est-ce que quelqu'un qui dit, par exemple, « Bonjour, comment allez-vous » est un francophone ou bien il faut qu'il y ait un certain niveau. Donc, c'est les statistiques, mais en même temps...
On pense au lecteur,
oui,
plus
oui,
qu'au locuteur.
C'est vrai, mais en même temps, 62% des écoliers libanais ont le français comme deuxième langue. Donc, à l'école. Donc, ça montre aussi que c'est une langue très présente.
Mais la question subsiste.
Moi, je crois, pourquoi? D'abord, donc, c'est une question d'amour. Deuxièmement, je crois que c'est une langue, je suis convaincu que c'est une langue qui est porteuse quand même d'une tradition de combat pour la liberté. Depuis Dubelet à Camus et Sartre, en passant
par Voltaire,
voilà. etc. Donc,
c'est une langue... a contredit en même temps ses idéaux et ses valeurs.
Peut-être que quelquefois, en pratique, on sent que les gouvernements successifs n'ont pas toujours bien défendu cette idée, mais il y a cet idéal qui est toujours là. Les valeurs républicaines sont toujours présentes. Et donc, moi, c'est peut-être dans un monde arabe où souvent les libertés sont bafouées, donc m'accrocher à une langue qui est une langue qui symbolise la liberté à travers les écrits, le siècle des Lumières, etc., c'est aussi une forme d'engagement. Et puis, troisième point, je crois aussi, qui m'a donné envie d'écrire en français, c'est que je sens que c'est une langue... Quand on écrit en arabe, on est lu pratiquement que dans le monde arabe, sauf si on est traduit. Et rares sont les éditeurs, à part peut-être Actes Sud, qui traduisent de l'arabe vers le français. Donc quand j'écris dans une langue qui est lue et étudiée dans plus de 80 pays, je m'adresse à l'Occident dans une langue qu'il comprend. Ça contribue à créer ce dialogue et à faire comprendre les problèmes de l'Orient. Donc quand je parle de la guerre du Liban en français, je permets aux francophones de comprendre la guerre du Liban à travers les yeux d'un enfant en français. Alors que si je l'avais écrite en arabe, finalement elle n'aurait concerné que peut-être à moins d'être traduite, ce qui est très rare malheureusement.
Vous êtes un joli défenseur de la francophonie, hein, Alexandre.
Oui, moi je suis convaincu que ce n'est pas une coquille vide. Malheureusement, souvent les intellectuels en France snobent la francophonie et considèrent que c'est un mot un peu élastique qui ne veut rien dire. Mais non, en fait, c'est une vraie réalité.
De la prison, on en sort vivant, pas de la guerre. Tout le reste, c'est des mots. C'est ce que dit Céline, donc en exergue d'un texte que vous avez écrit autour de la guerre, qui s'appelle justement « L'école de la guerre », Alexandre Najjar. Est-ce que vous vous souvenez de la première fois que vous avez vu un obus ?
Oui, c'était impressionnant parce que, étonnamment, un obus est beau. C'est-à-dire, c'est une œuvre d'art. Quand on voit un obus et qu'on le caresse, c'est un objet parfait. Mais quand on se rend compte ce qu'il y a dedans et qu'il peut provoquer la mort et des catastrophes, des victimes, des personnes amputées de leurs membres. Tout cela, c'est très étrange comme sensation de savoir qu'un objet aussi beau puisse provoquer tellement d'horreur. Et donc il y a un chapitre sur ce livre qui s'appelle « Esthétique de l'obus » où je me livre à ces réflexions.
Alors vous y racontez aussi les analyses politiques d'un expert de la chose, de la guerre, à savoir le coiffeur du quartier.
Oui, les coiffeurs du quartier au Liban en général sont très bavards et rassemblent tous les potins de la ville, mais en particulier en temps de guerre, ils deviennent des experts en géopolitique et en stratégie qui analysent à leur façon.
C'est les brettes de comptoir.
Voilà, exactement.
Vous racontez aussi les lettres d'amour acheminées d'un quartier chrétien, peut-être, à un quartier musulman, peut-être,
oui,
grâce à une ambulance.
C'est vrai, c'est souvent un peu comme Berlin-Est et Berlin-Ouest. Beyrouth a été, pendant la guerre, coupée en deux, Beyrouth-Est et Beyrouth-Ouest. Et ce qui est terrible, c'est qu'il y avait des amis, des amants, des amoureux, des proches qui étaient coupés les uns des autres et qui devaient, pour se rencontrer, franchir un pont qu'on appelait le Ring, qui était surveillé par des francs-tireurs, donc c'était souvent au péril de la vie de la personne en question, pour aller rencontrer la personne aimée. Donc je raconte ça aussi.
Et vous avez eu vous-même des amis ou des amours à l'ouest musulman de Beyrouth?
Oui, les meilleurs amis de mes parents, par exemple, se trouvaient de l'autre côté. Pendant des mois et des mois, on ne les voyait plus, parce qu'on avait peur et que le pont en question était interdit à la circulation. Et même, j'irai plus loin, en fait, je n'ai découvert vraiment le Liban qu'à la fin de la guerre, parce que souvent dans certains endroits comme Tyr, comme Saïda, comme Tripoli, comme Baalbek, on ne pouvait pas y aller parce que c'était des zones dangereuses. Un peu comme si un Français, par exemple, découvrait la Tour Eiffel à 40 ans, par exemple, le temps que la guerre s'achève. Et donc, c'est vrai qu'on était un peu réfugiés dans notre propre pays et interdits de circulation dans notre propre pays parce que chaque zone était gouvernée ou contrôlée par des milices antagonistes.
Vous racontez les toutes petites choses de la vie qui en font le sel en temps de guerre. Vous racontez, par exemple, l'importance de la radio pendant ce moment de guerre. Oui. Cet instituteur qui inculque à ses élèves les principes de base du parfait survivant.
Oui.
Vous racontez cette expression que peut-être chaque Libanais se dit à chaque déflagration. Vous vous demandez, vous êtes à table et vous vous demandez, c'est un départ ou c'est une arrivée?
Parce que souvent, bon, on entend une déflagration, on se dit, est-ce que c'est un obus qui s'écrase ou bien c'est les nôtres, entre guillemets, qui sont en train de bombarder le camp adverse. En réalité, souvent, on ne sait pas, mais peu à peu, nous sommes tous devenus
des
experts en balistique.
Et puis, vous évoquez aussi cette balle logée dans le cœur,
oui,
d'un de vos personnages.
Oui, c'est vrai. En fait, c'est une histoire authentique. C'est un de mes amis qui, une fois à un barrage, il y a eu une fusillade, et donc il a reçu une balle dans son thorax, et on n'a jamais pu l'extraire. À tel point qu'aujourd'hui encore, quand il doit passer dans le portail électrique des aéroports, donc chaque fois, il sonne, on a beau le fouiller, donc il doit toujours sortir ses radios pour montrer qu'il y a une balle qui est à l'intérieur de lui-même et qu'on ne peut pas extraire. C'est pas très courant, je crois, de se balader avec une balle dans son thorax. Mais c'est très symbolique, ça veut dire que la guerre l'habite encore, même au sens figuré. Les francs-tireurs. On l'avait baptisé Ring, comme ça, sans bien savoir pourquoi. Peut-être parce que pendant les années de guerre, il avait été le théâtre de combats très violents. Ce pont reliait l'est chrétien de Beyrouth à l'ouest musulman de la capitale. Du balcon de la maison familiale, je l'observe en plissant les yeux. Le vent du matin ébouriffe mes cheveux. « Fonce, Moussa, fonce !» La voix du chauffeur de taxi résonne dans ma mémoire. Hier encore, le ring était surveillé par une multitude de francs-tireurs, dont la seule occupation consistait à interdire le passage à tout véhicule. Y a-t-il plus lâche qu'un franc-tireur? Et d'abord, pourquoi l'appelle-t-on ainsi? Pour moi, il n'y a qu'une seule explication qui tienne. On les appelle francs-tireurs parce qu'ils y vont franchement, sans discuter, sans se poser de questions, sans se tourmenter de scrupules. Ils se croient à la fête foraine avec des ours en peluche à gagner. Ils jouent à cache-cache avec leur proie. Ils visent un gosse, une femme, un chien, et dès que la cible est dans leur ligne de mire, ils appuient mécaniquement sur la détente. l'épaule qui soutient la crosse du fusil tressaute, le coude a un mouvement de recul, la cible s'écroule en gémissant ou en aboyant, c'est selon.
Un court extrait en sol majeur sur RFI de l'école de la guerre avec vous, Alexandre Najar, pour dire que, sans doute, lorsqu'on a vécu la guerre comme vous, on a un nouvel alphabet de la vie dans la poche.
Oui, sans doute. C'est pour ça que mon livre s'intitule « L'école de la guerre », parce qu'on apprend, on tire beaucoup de leçons de cette guerre et on devient une autre personne. Hemingway disait que toute expérience de la guerre est sans prix pour un écrivain. En fait, elle est sans prix pour n'importe quel homme, même si on n'a pas été touché physiquement.
Cet alphabet est fait de quelles lettres aujourd'hui ?
Je crois que la guerre m'a appris à apprécier le moment présent, et je crois que le bonheur, ce n'est que le malheur évité. Être préservé du malheur, c'est déjà ça le bonheur. Et je crois que c'est une des leçons majeures qu'on apprend dans la guerre, où une journée sans obus est déjà une journée heureuse.
C'est presque un slogan.
Oui.
Alors, vous n'écrivez pas que sur la guerre, évidemment, hein, Alexandre Najar, dans vos multiples vies, parce que vous êtes tranquillement assis là dans votre costume cravate, etc. Mais vous êtes artiste, apparemment, hein, dans votre tête, en tout cas écrivain, avocat, notable aux mille responsabilités. Je ne sais pas quand est-ce que vous dormez. Hein. Et puis, vous avez le temps de commettre aussi, de temps en temps, des poèmes d'amour qui, d'ailleurs, oui, ont été mis en musique et interprétés par l'Orchestre symphonique de Beyrouth. On va s'en pourlécher les oreilles, mais une trop rare seconde, mais c'est tout ce qu'on peut faire pour
avec
vous là aujourd'hui.
Avec, d'ailleurs, un compositeur français qui s'appelle Nicolas Chevreau.
Pourquoi écrire un poème d'amour ?
Moi, j'ai toujours pensé que la poésie était la meilleure expression du sentiment amoureux. Je pense qu'un poème d'amour peut valoir deux romans ou cinq romans d'amour. Et j'ai fait donc plusieurs poèmes d'amour, dont six chants d'amour, qui ont été justement mis en musique par Nicolas Chevreau, qui est un pianiste et compositeur extrêmement jeune, mais très talentueux. Et donc ça a été joué par l'Orchestre Philharmonique du Liban. C'était une belle expérience.
Est-ce qu'il y a du Proust au Liban ?
Pourquoi ?
Pourquoi pas ? Je vois qu'en lisant votre dictionnaire amoureux du Liban, il y a du Rimbaud, il y a du André Gide, il y a du Lamartine.
Mais Proust n'est jamais venu à Beyrouth, malheureusement. En revanche, des gens comme Lamartine, comme Flaubert, comme Gide sont venus au Liban et ont écrit de belles choses, notamment Lamartine. Non seulement il a écrit des relations une relation de voyage, mais aussi des poèmes inspirés du Liban. Bon, certains sont moins connus aujourd'hui, comme Pierre Benoît ou Roland Dorgelès, mais d'autres, ce sont d'importants écrivains, comme notamment Flaubert, et qui ont...
Oui,
l'âme
française rôde toujours au Liban.
Ah non, certainement. Moi, je pense que tout Français qui visite le Liban se rend compte immédiatement de la sympathie et de la fraternité qui existe entre les Libanais et les Français. C'est pas un vain mot, cette amitié entre ces deux pays a été perpétuée malgré la fin du mandat, etc. Mais c'est une réalité tangible et on sent que tout Français au Liban se sent chez lui.
Et réciproquement ?
Souvent, parce que je crois que le Libanais en France a cette faculté de très bien s'adapter. Il y a très peu de problèmes que cause la communauté libanaise un peu partout dans le monde parce qu'elle a une faculté d'adaptation extraordinaire et elle aime s'adapter. C'est-à-dire qu'elle ne vient pas en voulant garder... Évidemment, elle reste fidèle à ses origines, à ses racines, mais en même temps, elle se fond dans le moule où elle vient. Et je crois que c'est quelque chose qui caractérise vraiment cette communauté libanaise.
Alors, je remarque que dans ce dictionnaire très amoureux, vous promenez votre silhouette de... un peu de sociologue, je dirais, dans ce qui était et ce qui n'est plus de ce Liban. Vous répertoriez les objets, les journaux, les sucreries, les chansonniers d'autrefois. C'est un petit peu comme un musée oui. Avec des objets sacrés.
Tout à fait. Moi, je pense que ce dictionnaire, c'est un peu l'identité et l'âme du Liban qui y sont. Cela dit, j'ai refusé qu'il y ait de la politique dedans, à part une entrée guerre, parce qu'il fallait bien expliquer.
Et le général de Gaulle aussi qui se promène.
Oui, tout à fait. Mais il y a peu de politique. Par exemple, les politiciens libanais, on ne les trouvera pas dans ce livre, parce que je voulais un livre qui unisse et pas qui divise les Libanais. Parce que si j'avais fait une entrée sur un politicien, j'aurais eu la moitié du Liban avec et l'autre moitié contre. Donc j'ai voulu vraiment un livre
mais
qui
vous
soit...
êtes avocat, vous êtes pour la justice, non? Vous êtes pour l'équité, l'équilibre?
Oui, voilà, tout à fait. Exactement. Faut il y a une entrée justice d'ailleurs dans le livre aussi. Ouais.
Mais ça va de A par exemple à Badei, hein, qui était le caïd de Beyrouth, à Z comme Maïziadeh, c'est une femme arabe très cultivée.
Oui.
C'est-à-dire que j'ai l'impression que vous reconstituez, vous solidifiez quelque chose de l'image du Liban. Ce Liban, ce pays qui a précisément l'image d'un pays cratère, dévasté.
Non, justement, je voulais montrer que le Liban n'est pas du tout assimilable à la guerre. Vous savez, même aujourd'hui encore, quand on veut dire c'est le Far West, on dit c'est Beyrouth. Mais c'est extrêmement réducteur et je déteste cette expression.
C'est blessant pour vous.
C'est blessant, évidemment, parce que c'est comme si tout ce pays qui a des villes extraordinaires, qui a 6000 ans d'âge, qui a des villes comme Byblos, comme Baalbek, comme Tyr, qui a connu 17 civilisations qui se sont succédées sur son sol, qui soit simplement réduit à la guerre. Il y a même le mot libanisation pour dire émiettement. Donc on est vraiment, on est victime d'une sorte de désinformation. Et donc j'ai voulu rectifier le tir un peu à travers ce livre qui est un hommage au Liban, sans pour autant occulter certains travers, donc je le dis, c'est pas un livre comme ça qui fait l'apologie du Liban, mais en même temps je dis qu'il y a des choses au niveau de l'écologie, au niveau de l'électricité qui est depuis la fin de la guerre qui est toujours aux abonnés absents. Donc ouais. Tout n'est pas toujours parfait.
Alors je remarque qu'à la lettre R il y a Rabani
Ziad Rabani qui est donc
Renan,
le fils de Fairouz.
Voilà. Mais je vois qu'il n'y a pas le mot réfugié. Alors je rappelle que depuis l'indépendance de 1943, le système politique libanais repose, je parle sous votre contrôle Alexandre Najjar, sur un pacte national, c'est-à-dire un compromis communautaire non écrit entre les trois communautés majoritaires, à savoir sunnites, chiites et maronites, et que ce relatif équilibre intercommunautaire est peut-être menacé par la question des réfugiés palestiniens dont on parle régulièrement, réfugiés palestiniens en partie sunnites, et depuis 2011 par un nouvel afflux massif de réfugiés majoritairement sunnites, de nouveau venus cette fois de Syrie. Réfugiés qui tentent pourtant un retour au pays.
Je suis le Premier ministre du Liban, je suis responsable du peuple libanais.
Il y a encore 1 million de réfugiés syriens en Liban, dont près de 50 000 sont ici à Ersal.
Nous voulons aider les réfugiés syriens, mais nous n'avons pas les moyens suffisants pour accueillir autant de réfugiés.
Alors que la guerre civile syrienne entre dans sa 8e année, ils ne veulent plus attendre.
Je vais voir si notre maison est toujours debout. Nous l'ignorons, nous devons y aller pour voir ce qu'il s'est passé.
Je préfère rentrer dans mon pays, peu importe ce qu'il arrive, même si je meurs.
Ceux issus de zones toujours en guerre n'ont d'autre choix que de rester ici.
Les organisations de défense des droits de l'homme ont mis en garde à plusieurs reprises contre les retours forcés des réfugiés syriens.
Nous ne sommes pas en sécurité en allant là-bas. Il n'y a que des terroristes et les gens s'entretuent. C'est mieux de rester ici que d'aller se faire tuer.
La douloureuse question des réfugiés syriens au Liban au micro de France 24 sur RFI. Alors cette question des réfugiés syriens, Alexandre Najjar, elle est arrivée d'ailleurs dans notre conversation, on s'est parlé au téléphone avant de se rencontrer ici. Mais j'imagine que cette question renforce bien le sentiment d'identité nationale chez les Libanais aujourd'hui.
Oui, mais en même temps, le Liban a toujours été une terre d'accueil, surtout par rapport à ses voisins. Le peuple syrien est un peuple ami et nous l'avons accueilli volontiers à cause des événements douloureux qu'il connaît et des massacres qui sont commis, enfin d'un camp, dans un camp comme dans un autre d'ailleurs. Simplement, cet afflux massif de réfugiés donc, qu'on a accueilli à bras ouverts et sans au départ aucune appréhension, simplement le nombre qui est arrivé est devenu impressionnant. Le Liban compte 4 millions d'habitants avec 1 200 000 réfugiés. C'est comme si en France, on vous disait, il y a 20 millions de réfugiés qui débarquent tout à coup et dont il faut s'occuper. Donc le Liban le fait très bien puisque même les écoles publiques maintenant accueillent les enfants syriens depuis plusieurs années. Et donc c'est normal d'aider. Mais d'un autre côté, Je crois que le Liban ne peut pas économiquement, ne peut plus supporter ce poids. Et hélas, la communauté internationale qui aide un peu, mais n'est pas vraiment consciente de ce problème. Et aujourd'hui, il est temps, je crois, de commencer à penser, puisque la guerre en Syrie commence un peu à s'estomper, de commencer à envisager sérieusement le retour de ces populations, dont beaucoup demandent à revenir dans leur village. Mais en même temps, ils demandent à revenir.
Donc beaucoup se sentent encore menacés. Hein.
Oui, oui. Donc ils veulent revenir aussi dans un climat qui est réconfortant. C'est là où je pense que la communauté internationale, peut-être à travers l'ONU, maintenant la Russie a proposé ses services, mais il faut absolument que le retour commence à s'organiser parce que le poids économique commence vraiment à se faire ressentir.
Mais si vous parlez sincèrement, vous, en tant que Libanais maronite, est-ce que vous craignez un déséquilibre démographique en faveur des sunnites?
Moi, je ne le prends pas comme ça. Je pense que, indépendamment de la religion des réfugiés, il faut qu'ils rentrent chez eux parce que c'est leur pays. Il n'est pas admissible pour eux.
Ils ne sont pas partis de gaieté de cœur de leur pays.
Voilà. Hein. Et même aussi le problème palestinien aussi qui perdure depuis des années aussi, c'est leur présence dans les camps, dans des conditions quelquefois terribles, n'est pas aussi quelque chose qu'on peut accepter d'un point de vue humain. Donc je crois que cette question de réfugiés doit être vraiment prise en charge par la communauté internationale, que l'ONU, qui se targue de vouloir régler les problèmes.
Mais ça, c'est la langue de la diplomatie, mais la langue du cœur, elle dit quoi?
Non, la langue du cœur dit qu'il faut les aider à rentrer dans des conditions optimales pour eux, c'est-à-dire qu'ils se sentent en sécurité, mais qu'on ça ne peut plus durer parce que plus le temps passe, plus ces familles auront leurs habitudes, leurs enfants qui se sont intégrés.
Sans parler des demandes de naturalisation.
Oui, évidemment.
Voilà. Alors, j'aime beaucoup que vous nous rappeliez la phrase de Khalil Gibran qui disait, lui, être fier d'être chrétien tout en ayant, je le cite, « logé Jésus dans une moitié de son cœur et Mahomet dans l'autre moitié ». Est-ce que dans le Liban d'aujourd'hui, vous savez, c'est quoi l'équilibre finalement entre appartenance religieuse et appartenance politique ?
Souvent, c'est lié. Je crois que la plupart des partis libanais sont des partis confessionnels. Et je crois que le confessionnalisme, c'est une des tares du système libanais parce qu'elle contribue à un clivage permanent. Et que les gens, souvent, au lieu de réfléchir en tant que Libanais, ils réfléchissent d'un point de vue communautaire. Et souvent, ils sont inféodés à des pays étrangers qui sont, entre guillemets, les défenseurs de cette communauté ou de cette confession. Pour schématiser, par exemple, les chiites avec l'Iran, les sunnites avec l'Arabie Saoudite. Donc souvent, il y a une certaine allégeance, disons, à ces pays-là, de des communautés qui doivent, en réalité, penser libanais avant de penser confession. Et je crois que c'est l'un aussi des problèmes du Liban, que cette appartenance nationale est supplantée par l'appartenance confessionnelle et qu'on pourra vraiment construire un État libanais digne de ce nom. Pas forcément la laïcité absolue, mais au moins, enfin, ce qui serait l'idéal, certainement, mais pour être réaliste, déjà, qu'on commence un peu à faire primer l'appartenance nationale avant le confessionnalisme, ça, ce serait déjà un grand bond en avant.
Vous devez être un bon avocat. Hein. Quand vous tenez le crachoir, vous ne le lâchez plus. Hein. Mais est-ce que pour vous, le Liban est d'abord arabe ou d'abord chrétien ?
Non, moi je pense qu'il n'y a pas de contradiction. Nous sommes des Arabes chrétiens. Ce n'est pas antinomique, arabe et chrétien. Un arabe n'est pas seulement musulman. Il y a des arabes juifs, il y a des arabes chrétiens. Et les chrétiens, d'ailleurs, ont joué dans la Nahda, la Renaissance arabe, un rôle considérable. Preuve que, finalement, l'arabité doit beaucoup aux chrétiens. Et les chrétiens sont chez eux depuis très longtemps déjà.
Menacés hein, aujourd'hui.
Oui, menacés certainement. Mais je veux dire, ils ne vivent pas chez les autres, mais ils vivent avec les autres. Et je crois que le Liban, en fait, perdrait sa raison d'être et perdrait sa spécificité s'il perdait l'une de ces communautés-là, ou bien si l'une prenait le dessus sur l'autre. C'est pour ça qu'on rappelle toujours le mot de Jean-Paul II, que le Liban est plus qu'un pays, c'est un message. Ce n'est pas un cliché, c'est effectivement un appel à se vivre ensemble.
Alors, puisqu'il y a tellement d'amour dans vos propos, Alexandre Najjar, je vous propose de jouer avec moi pour terminer cet en sol majeur à un petit « j'aime, j'aime pas ».
Jay,
J comme j'aime. J'aime pas.
L'alcool.
Je n'aime pas. Pour la simple raison que, étant gamin, j'ai été victime d'un, ce qu'on appelle un œdème de Quinck. Mais en même temps, l'arak était pendant la guerre.
C'est la boisson.
La boisson qui aidait les gens à oublier les affres de la guerre. Donc c'est souvent un peu difficile de concilier les deux entre la boisson qui fait oublier les malheurs et puis le côté santé.
Jésus-Christ.
J'aime beaucoup. D'ailleurs, j'ai eu la tentation d'écrire un livre sur le message révolutionnaire de Jésus, qui est souvent oublié. C'est quelqu'un quand même qui a modifié beaucoup de choses dans l'entendement des gens de l'époque. Et j'ai une grande admiration pour Jésus.
Le foot ?
Ah oui, c'est mon sport préféré. Et encore aujourd'hui...
On dirait pas comme ça, hein ?
Hein?
Vous avez votre short, là, dans le carton.
Vous devriez me voir en short avec mes... Mais non, mais en plus, je jouais bien. Maintenant, un peu moins bien à cause de l'âge, mais je... C'est un... En fait, ce qui est marrant, c'est que tous mes frères, y compris ma sœur, d'ailleurs, qui était gardien de but, avec nos cousins, nous jouions, nous formions une équipe à nous seuls, puisque 6 plus les cousins, ça faisait déjà 11 joueurs. Et donc, c'est un sport que j'ai toujours apprécié.
Harry Bore.
Oui, puisque c'est le sujet de mon livre « Harry et Franz » qui vient de sortir chez Plon et qui raconte cet immense acteur des années 30-40 qui n'a rien envié à des gens comme Jean Gabin ou Rému et qui malheureusement a connu une fin tragique puisque la Gestapo l'a arrêté sans qu'il sache pourquoi. Et il a été secouru en prison par un abbé allemand, un aumônier allemand, qui était nommé par les nazis, mais qui a su rester pur au milieu de cet environnement haineux, qui était l'abbé Franz Stock. Et donc c'est cette rencontre entre un des plus grands acteurs français de l'époque et cet aumônier allemand que je raconte dans Harry et Franz.
L'Écosse ?
L'Écosse, oui. L'Écosse, c'est depuis que je suis petit, j'ai une fascination pour l'Écosse. Je ne sais pas si c'est le monstre du Loch Ness ou les histoires un peu extraordinaires, les légendes écossaises et l'équipe d'Écosse de foot qui était très bonne à l'époque, il est beaucoup moins maintenant. Donc j'ai toujours eu une fascination pour ce monde écossais et je n'exclus pas un jour d'écrire un roman qui soit inspiré de l'histoire de l'Écosse parce que j'ai vraiment une fascination pour ce pays.
Le passeport.
Oui, j'ai toujours mon passeport sur moi et je crois que c'est dû à la guerre où on était toujours obligé de fuir d'un endroit à un autre et on ne savait pas à quel moment on devait être obligé de se réfugier hors du Liban, par exemple d'aller à Chypre ou en France. Et donc ce réflexe, je l'ai toujours gardé là pendant que j'ai dans ma poche.
Vous vérifiez, hein.
Voilà.
Oui.
Voilà.
Vous êtes un homme libre alors.
Oui, enfin non, mais je me sens en sécurité avec mon passeport, pas pour fuir si vous voulez, pour ne plus retourner, mais souvent parce qu'on ne sait pas. Le problème du Liban, c'est que c'est un pays formidable, mais qui est toujours dans une zone extrêmement dangereuse. On ne sait pas à quel moment on est obligé de se réfugier quelque part pour y revenir, évidemment, mais c'est aussi un réflexe d'autodéfense, disons.
L'accent libanais.
c'est un bel accent. Maintenant, des fois, on roule le R, mais moi, je ne le roule pas.
Ah, si, si, si.
Non, enfin, je
si
chantonne.
Vous voulez, je
chantonne.
Je vous prête mes oreilles,
oui,
si
oui.
Vous voulez.
Je chantonne un peu, mais je n'ai pas. Il y a un R qui est prononcé beaucoup plus que moi-même. Mais c'est vrai qu'on chantonne un peu en parlant. On a un accent très particulier. Et il y a même aussi des libanismes, des expressions déformées du français qu'on utilise.
Par exemple,
quand on veut dire de quelqu'un qui se complique l'existence, on dit qu'il tient l'échelle dans le sens de la largeur. Quand on veut dire qu'on est, on est proche de quelqu'un, on lui dit « je suis la cartouche de ton revolver ». Donc il y a des expressions assez bizarres, mais ça fait partie du folklore libanais aussi.
Ou de la francophonie.
Oui, aussi, d'une certaine façon.
En sol majeur, @rfi.fr.
Au générique de cet ensemble majeur consacré à Alexandre Najjar, un dictionnaire amoureux du Liban à relire chez Plon, ainsi que pour cette rentrée littéraire, ce nouveau roman Harry et Franz.
Oui.
Bon vent pour ce nouveau roman. Et puis je conseille pour vos amoureux Mimosa aux éditions Les Escales. Donc je sais que vous écrivez effectivement des chansons, notamment pour Jean-Patrick Capdevielle, ça c'est une curiosité incroyable.
Mais oui, elle restera
secrète malgré tout, parce que pour le monde, j'aimerais qu'on partage en sol majeur Leonard Cohen avec I'm Your Man.
Oui, c'est un immense artiste qui était à la fois musicien, chanteur, mais surtout, on l'oublie souvent, un grand poète.
If you want a lover, I'll do anything you ask me to. And if you want another kind of love, I'll wear a mask for you. If you want a partner, take my hand. Or if you want to strike me down in anger, here I stand, I'm your man. If you want a boxer, I will step into the ring for you. And if you want a doctor, I'll examine every inch of you. If you want a driver, climb inside. Or if you want to take me for a ride, you know you can. I'm your man. Are the moons too bright? The chains too tight? The beast won't go to sleep. I've been running through these promises to you that I made and I could not keep. Ah, but a man never got a woman back, not by begging on his knees. Or I'd crawl to you, baby, and I'd fall at your feet, and I'd howl at your beauty like a dog in heat, and I'd clog your heart and I'd tear at your sheet. I'd say, please, I'm your man.
En sol majeur avec Facebook, Twitter et puis en podcast sur notre application Pure Radio et bien sûr derrière votre poste chaque samedi et chaque dimanche à 14h10 temps universel, ça fait 16h à Paris. Caroline Filliette, Laura Pinto, Thibaut Baduel, Yasmine Chouaki, on vous retrouve et on vous espère la semaine prochaine avec Dorothée Hannequin. À la semaine prochaine.